Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je voudrais vous faire état d'une expérimentation qui a été menée par la Mutualité sociale agricole. Et je pense que ce que je vais vous présenter fait tout à fait écho par rapport à ce qui a été dit ce matin, notamment par Yann Bourgueil et le professeur Bourdillon. Je vous laisserai voir aussi si la Mutualité sociale agricole, dans cette expérimentation, tient un peu le rôle de cheval de Troie de l'assurance maladie ou celui de Don Quichotte, à vous de juger. Donc je commencerai peut-être quand même par vous dire qui est la Mutualité sociale agricole pour qu'ils ne la connaissent pas, mais en quelques mots. Donc deuxième régime de protection sociale obligatoire français, avec plus de 4 millions de personnes couvertes, 27 000 élus, qui couvre donc l'ensemble de la population agricole, qu'elle soit non salariée, tertiaire ou exploitant, et qu'elle soit salariée, donc tertiaire, et les salariés travaillant dans les exploitations. Donc vous voyez qu'on est répartis de façon assez hétérogène, puisque pour certains départements, on couvre moins de 5% de la population, mais on peut aller jusqu'à 15 à 26% de la population pour certains départements très ruraux. Donc structure qui fait un petit peu aussi écho par rapport à ce que je vais vous présenter, par rapport à nos possibilités donc, de travail sur le terrain, structure extrêmement décentralisée, avec une caisse centrale dans laquelle je travaille, avec des caisses régionales et départementales, mais surtout avec une multitude d'antennes délocalisées au cœur des territoires. Donc c'est ce qu'on appelle les échelons locaux, qui effectivement pour nous peuvent permettre d'être de véritables relais vers nos adhérents, de permettre de réaliser toute l'animation du milieu agricole qu'on essaie de réaliser, et donc de cibler aussi un certain nombre d'actions individuelles et collectives tout à fait à proximité du domicile des patients. Donc la politique de santé d'une institution comme la nôtre, donc d'un régime d'assurance maladie, pour situer un petit peu l'action qui va suivre, c'est d'abord de s'investir sur toutes les problématiques de l'offre de soins, notamment en milieu rural. Par exemple, on développe des expérimentations pour la création de maisons de santé rurales. Ça fait aussi écho à ce que disait M. Bourgueil tout à l'heure. On cherche à développer des offres de services en direction des populations et des professionnels de santé, toujours dans des zones de territoire de projet. Et enfin, et j'y viens, donc on cherche à promouvoir la prévention et l'éducation en santé. Alors, je vais vous faire état tout d'abord d'une expérimentation qu'on a menée donc, avec le laboratoire de recherche en pédagogie de la santé, avec l'équipe de Rémi Gagnère, de Jean-François Divernois et notamment Cyril Crozet qui a beaucoup travaillé avec nous sur ce projet. Donc ça, c'est une expérimentation qui a été menée en 2004-2005. Donc je vais vous en redire un petit mot, mais surtout qui a conduit à une généralisation secondaire. Donc il s'agit d'une action qu'on a menée sur deux affections, l'insuffisance cardiaque et la maladie coronaire, et qui a été menée sur 9 régions françaises. Donc elle a permis de réaliser 17 sites d'ateliers collectifs d'éducation thérapeutique au sein de ces 9 régions. Et ces ateliers couvraient à 8 à 10 personnes par atelier par rapport à une séquence d'environ 3 fois 3 heures. Donc ces personnes ont été recrutées directement après contact des médecins généralistes. Pour animer ces ateliers, donc, nous avons collaboré avec l'Ipsen à travers un programme de formation donc, qui nous a permis de former donc, 40 personnes, que ce soit des médecins de l'assurance maladie ou des professionnels de santé libéraux, donc, qui ont animé en binôme ces séances. On a inclus dans cette expérimentation 150 personnes d'âge de 55 à 75 ans qui avaient l'une de ces deux pathologies. Donc, je l'ai dit, qui ont été proposées par le médecin traitant après un contact du médecin conseil. Et le diagnostic éducatif a chaque fois été élaboré au préalable en consultation par le médecin traitant. Quelques mots rapides sur les résultats de cette expérimentation, mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos de ce jour, pour vous dire quand même qu'on a eu des résultats satisfaisants, peut-être moins en acquisition de connaissances, puisqu'on a eu plus 11% en moyenne entre le pré-test et le post-test à 6 mois. Par contre, on a eu de très bons résultats en termes de modification de comportement. Bon, l'étude porte sur des dizaines d'items. Je ne ferai ici que vous relater quelques résultats les plus significatifs. Mais bien sûr, je suis à votre disposition pour vous fournir le rapport complet de cette étude. Donc, quelques exemples de modifications de comportement qui ont été significatifs. Par exemple, la diminution de consommation de sel chez les insuffisants cardiaques, l'augmentation de la consommation de fruits et légumes, l'augmentation du temps de marche active, l'augmentation du nombre de patients sachant évoluer leurs œdèmes des membres inférieurs, l'augmentation du nombre de patients connaissant le but de leur traitement et ou sachant quoi faire en cas d'oubli des AVK. Côté satisfaction, alors, au niveau des patients, vous voyez, il n'y a pas photo, si je puis dire. On est toujours autour de 93 à 80% selon l'angle d'approche de la satisfaction. Et on a même 98% des personnes qui pensent que la MSA devait proposer cette expérience à d'autres patients, puisque là, c'était quand même assez anecdotique. Nous étions sur 158 patients. Côté médecin, et là, c'est peut-être beaucoup plus intéressant, puisque nous avions 55 médecins traitants généralistes associés à cette expérimentation. Et on leur a demandé, après un certain temps, effectivement, le retour qu'ils en avaient tiré. Donc, 85% des médecins pensent que les patients ont acquis des connaissances. 85% également estiment que grâce à l'éducation, leurs patients collaborent mieux avec eux. 83% souhaitaient continuer cette collaboration avec la MSA. Et enfin, 52% seulement souhaitent être davantage impliqués dans les programmes d'éducation. Bon, ça rejoint tout à fait ce qui a été dit ce matin. On avait quand même là des médecins assez volontaires par rapport au projet, mais qui ne souhaitaient pas être effecteurs directs eux-mêmes, mais plutôt le déléguer à d'autres. Alors, ces résultats, c'est là où vraiment je veux en venir, nous ont conduit à une généralisation du projet sur la France entière depuis début 2006. Et donc, nous travaillons sur les patients atteints cette fois de 3 affections, puisqu'on y a rajouté l'hypertension artérielle. Donc, en mutualité sociale agricole, par rapport à la mise en ALD, nous avons un flux entrant annuel de 25 000 personnes donc, qui font une demande d'ALD pour l'une de ces 3 pathologies. Nous avons ciblé notre action pour des raisons de moyens humains, même si c'est discutable en termes d'équité, mais enfin on pourra y revenir, à un âge inférieur à 75 ans, donc pour la mise en ALD pour l'une de ces 3 affections. Donc tous ces patients qui rentrent en ALD et qui ont moins de 75 ans, ils sont convoqués par le médecin conseil, qui a été un petit peu briefé bien sûr, qui lui-même a bénéficié d'une séance, d'une formation d'éducation thérapeutique IPSEM de 5 jours. Donc, lors de cet entretien, le médecin conseil propose à ses patients donc 3 séances d'éducation thérapeutique de 3 heures, séances collectives, 8 à 10 patients, à proximité de son domicile, donc sur une antenne décentralisée de la MSA. Le médecin traitant est complètement impliqué dans ce projet, puisque dès qu'on convoque le patient et dès que le patient donne son accord sur cette proposition d'éducation, eh bien, automatiquement est envoyé un courrier au médecin traitant lui expliquant notre démarche, et lui proposant, et ça je tiens à le dire, lui proposant d'inscrire d'autres patients qui ne sont pas forcément en ALD ou qui sont en ALD depuis longtemps, ayant l'une de ces 3 affections, et bien sûr étant adhérent à la MSA, de participer à ces séances d'éducation thérapeutique. Donc vous voyez qu'on n'est pas exclusif par rapport au dispositif ALD, mais on a pu étendre notre expérimentation sur l'ensemble des gens atteints de l'une des trois affections, quel que soit leur degré de gravité. Alors, cette fois-ci, les médecins conseils participent plus, ils sont coordonnateurs des projets sur le territoire, mais ils ne sont plus animateurs eux-mêmes. Il ne faut peut-être pas non plus multiplier les casquettes. Donc, on a délégué ces animations de ces 3 séances d'éducation thérapeutique à des médecins, à des infirmières, qu'ils soient d'ailleurs libéraux ou salariés, même salariés de réseau, donc qui viennent animer pour nous, moyennant rémunération, bien sûr. Je n'ai pas dit tout à l'heure, le diagnostic éducatif est rémunéré aussi auprès du médecin traitant. Donc là, il y a une rémunération prévue donc, pour ces gens qui travaillent avec nous, qui sont conventionnés avec nous, et qui viennent donc animer ces séances une fois que les pools de patients sont suffisants pour mettre en œuvre la séance à proximité du domicile. Donc ces gens sont formés encore une fois par un programme spécifique élaboré avec l'IPSEN qui colle complètement à ce programme de la MSA. C'est une formation de 5 jours. On a aussi construit un kit spécifique. Donc un kit spécifique, encore une fois, avec l'IPSEM et le laboratoire de pédagogie de la santé, donc, qui est utilisé comme vecteur pédagogique, si je peux dire, lors de ces formations pour ces professionnels qui travaillent avec nous. Je vous en montrerai un exemple après. Quel objectif qu'on a actuellement au niveau de cette action? Donc pour 2007, par rapport aux premiers échos qu'on a, c'est qu'on a à peu près de l'ordre, c'est assez variable selon les régions. C'est peut-être lié aussi à la motivation du médecin conseil qui entretient les gens, mais on a environ 30% de patients volontaires donc pour participer à ces séances d'éducation thérapeutique. Alors pour nous, 30% sur un an, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 25 000 personnes, mais si on prend que les moins de 75 ans, on est à peu près à 12-13 000. Donc 30%, ça fait à peu près 3 500 personnes qu'on espère au mieux donc, inscrire dans ce programme en 2007. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une échelle assez intéressante. Au niveau du coût, à titre d'information, le coût que ça représente pour une institution comme la nôtre est estimé à 120 euros. Donc 120 euros qui couvrent les frais de structure, de réalisation, la rémunération du diagnostic éducatif et la rémunération du professionnel qui travaille avec la MSA. Très rapidement, donc le contenu, bon, c'est assez classique hein, de ces séances. Donc c'est donc 6 fois 1h30, mais en fait 3 fois 3 heures, espacées d'environ une semaine à 15 jours. On travaille, première séance, donc en collectif toujours. Donc bien sûr, un travail sur les représentations, sur la définition d'un vocabulaire commun, sur les représentations de la maladie, je l'ai dit. Ensuite, il y a un deuxième atelier sur tout ce qui est facteur de risque et engagement, puisque le patient a bien sûr un contrat d'éducation qui va le suivre au cours de ces différents ateliers. Un atelier nutrition, activité physique, autosurveillance et signes d'alerte, et connaissance du traitement. Quelques exemples d'un des outils que l'on utilise dans ces ateliers. Donc là, par exemple, vous voyez que suite à l'atelier nutrition, les patients repartent avec des sets de table. Il y en a 6. Donc là, je vous en montre un, c'est sur le sel. Donc là, c'est un petit peu la solution hein, du jeu qui a été fait en atelier, où les patients ont placé des pastilles, du plus salé au milieu au moins salé à l'extérieur. Donc ça, ils ont fait le jeu, bien sûr, en groupe de 3 ou 4 personnes. Et ils repartent chez eux avec la solution, qui est en fait un set de table. Donc évidemment, ça, c'est ciblé par rapport aux insuffisants cardiaques. Enfin, je ne peux pas rentrer dans l'ensemble des détails. Ici, même type d'approche sur le gras, vous voyez. On positionne également les aliments du plus gras au moins gras. Alors, quand même... Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ce genre d'expérimentation qui est donc menée directement par un organisme d'assurance maladie qui se place comme à la fois opérateur-acheteur? Peut-être point positif, c'est que, et ça rejoint aussi ce qui a été dit ce matin, c'est que le temps de l'ALD semble un temps fort qui demain pourra peut-être conduire à une forfaitisation. Mais je vous ai dit aussi qu'il fallait, pour des raisons d'équité et d'accès, qu'on intègre aussi les gens qui ne sont pas en ALD. Pour leurs raisons propres, mais peut-être demain aussi penser aux gens qui ne sont pas en ALD parce qu'ils n'ont pas atteint le degré de la gravité suffisant. Donc là, peut-être qu'il faut aussi, demain, réfléchir à une protocolisation de la prévention, simplement peut-être sur des facteurs de risque ou sur des débuts de maladie, qui pourraient permettre justement la prise en charge des actes de prévention, et pas forcément avec exonération de tickets modérateurs. Donc, point positif aussi, c'est bien sûr une éducation de proximité en ambulatoire, à proximité du gens. C'est-à-dire que certain nombre de personnes qui ont bénéficié de ces ateliers n'auraient jamais eu écho d'éducation thérapeutique en dehors de ce projet. L'équité, j'en ai parlé. Lien avec autre structure, bien sûr, on ne cherche pas à faire ça dans notre coin. Donc on a passé une multitude de partenariats avec les réseaux, avec les centres de prévention cardiovasculaire en Picardie, petit exemple. Donc vraiment, on cherche à travailler en collaboration. Puis si d'autres font localement, bien sûr, on ne prend pas leur place, mais on envoie les patients. On cherche aussi, bien sûr, une synergie entre notre éducation qui est faite en collectif, avec après un relais vers l'individuel, par exemple vers les réseaux. Bien sûr, il s'agit d'un modèle qui demain, qui pourrait être reproductible, ce qui a un petit peu suscité très fortement l'intérêt récemment des États généraux de la prévention, du ministère à travers du plan maladie chronique et de l'HAS, donc, qui suivent de très près ce projet. Les réserves que je ferai donc, directement par rapport à ce projet, c'est effectivement sa pérennisation. Peut-être qu'elle ne va pas durer si apparaît un certain nombre de dispositifs législatifs. Son coût, bon là, ce n'est pas forcément une réserve, mais enfin, vous voyez que 120 euros, c'est quand même pas rien. Hein, vous ramenez ça aux 10 millions de personnes atteintes de pathologies chroniques, vous ferez le calcul. Ce qu'on peut aussi, la critique qu'on me renvoie souvent, c'est que peut-être qu'on rentre dans le cadre d'une standardisation un peu réductrice. Mais bon, ça peut faire l'objet d'un débat. Point positif, par contre, c'est qu'il y a vraiment un relais qui est proposé aux médecins traitants secondairement. C'est-à-dire que suite à ces séances, on renvoie le patient vers son médecin traitant avec un certain nombre d'outils. Bon, je ne l'ai pas montré, mais il y a par exemple une cible des facteurs de risque qui va servir dans l'évaluation, mais sur lequel le médecin traitant peut retravailler avec son patient. Il y a aussi, bien sûr, le contrat d'éducation qui a fixé un certain nombre d'objectifs que le médecin peut corréler avec le diagnostic éducatif qu'il avait élaboré au départ, et auquel, bien sûr, on propose de continuer de travailler avec son patient. Alors là, c'est le grand point d'interrogation. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les médecins généralistes, par rapport à leur degré de sensibilisation à l'éducation thérapeutique. Ça crée aussi là, peut-être une iniquité par rapport aux patients. Mais bon, on va bien sûr évaluer cet aspect-là dans la nouvelle évaluation qui est prévue. Mais bon, c'est un peu faute de mieux. Mais il nous importait, pour nous, de façon essentielle, de faire un relais vers le médecin traitant plutôt que d'assurer nous-mêmes une reprise des patients en atelier à moyen et long terme. Alors, je termine, mais juste pour dire que avec l'équipe de Jean-François d'Hivernois, donc on a imaginé un nouveau protocole d'évaluation qui, cette fois, va porter sur 1 000 à 2 000 patients et qui va reprendre donc une analyse qui comme objectif, donc reprend l'évaluation des gains de connaissances, des changements de comportement, la satisfaction, des éléments biocliniques, donc à travers l'évolution des facteurs de risque. Donc là, on va vraiment évaluer ce qui se passe au niveau biologique, au niveau d'hypertension, des choses comme ça, et l'impact psychosocial. J'exclus pas d'ailleurs qu'on fasse un volet économique dans cette évaluation, mais là, c'est plus propre aux besoins de mon institution. Mes décideurs me demandent à chaque fois, oui, mais ça nous rapporte combien? Mais c'est aussi logique parce que, effectivement, on ne peut pas. Oui, je termine, excusez-moi. Donc, un calendrier de cette évaluation qui est donc prévu pour des résultats qu'on espère publier en septembre 2008. Voilà, merci beaucoup.